franceinter.fr.
Est-ce que les Babyloniens utilisaient des tables de trigonométrie 1000 ans avant les Grecs? Question qui divise aujourd'hui à la une de la science.
Plimpton 322 est une tablette d'argile paléo-babylonienne vieille de 3700 ans et c'est une merveille scientifique du monde antique. On sait depuis des décennies que cette suite de nombres prouve que les Babyloniens connaissaient le théorème de Pythagore 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Et même s'il y a un consensus sur ce que la tablette contient, on n'a aucune idée de ce à quoi elle servait. Nos recherches montrent que c'est une table de trigonométrie très originale et qui par certains aspects peut paraître supérieure à la trigonométrie moderne.
Et c'était la voix du jeune mathématicien Daniel Mansfield, co-auteur de cet article paru dans la revue Historia Mathematica. Pour parler aujourd'hui de cette tablette d'argile, découverte dans les années 1900 et qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques jours, Axel Villard, nous recevons le mathématicien Étienne Gis.
Bonjour Étienne Gis.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes mathématicien, géomètre, amateur d'histoire des mathématiques et avec nous pour tenter de comprendre un peu la nature du débat autour de cette tablette Plimpton 322. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette tablette si on sait lire le calcul babylonien?
Écoutez, si vous me permettez, avant d'en parler, je voudrais parler un peu sur ce mot « buzz » qu'on vient d'entendre. C'est tout à fait intéressant. Quand on parle de mathématiques dans les médias, je suis très très content, toujours. Alors j'ai cherché le côté positif. Mais le côté négatif, quand même, c'est que il y a eu comme une opération de communication autour d'un article. On a entendu tout à l'heure un extrait de cette petite clip vidéo qui est un peu mensonger sur les bords. Et voilà, donc je suis très content qu'on parle de mathématiques, un peu moins que ça se passe à travers du buzz, quoi. Mais je sais que la tête au carré ne se fait pas fasciner par le buzz.
Mais c'est pour ça qu'on vous a appelé, Étienne Gis, pour être critique de cette info.
En effet. Alors, cette tablette est assez merveilleuse dans le sens où elle contient une quinzaine de lignes, et sur chaque ligne, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un triplet pythagoricien. Alors, peut-être que je peux vous rappeler le théorème de Pythagore, oui. Ou bien vous le connaissez tous?
Alors, peut-être ce qu'est un triplet, ou peut-être au passage, vous nous rappelez ce qu'est le théorème.
Alors, quand vous prenez, par exemple, un rectangle, le rectangle, il a une largeur, il a une longueur, et il a une diagonale. Ça fait trois nombres, et c'est pour ça qu'on parle d'un triplet. Et le théorème de Pythagore, dont on parlait à l'instant, vous vous souvenez peut-être, dit que le carré de la diagonale est égal à la somme du carré de la hauteur et du carré de la largeur. Alors, voilà, c'est le théorème de Pythagore.
Ce qui nous donne trois nombres, donc un triplet.
Voilà, exactement. Alors, depuis très longtemps, on connaît des exemples où ça marche très bien, où les trois nombres sont tous les trois des entiers. Par exemple, 3, 4, 5. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Ça, c'est assez facile à trouver. Si je vous demande d'en chercher, vous trouverez probablement celui-là. Mais vous ne trouverez probablement pas le premier... Là, qui est sur la première ligne de la tablette, qui dit que 119 au carré plus 120 au carré égale 169 au carré.
Et cette tablette contient 15 lignes comme celle-là?
Et cette tablette contient 15 lignes qui représentent 15 triplets, 15 rectangles, dont les côtés sont des nombres entiers.
Alors, on parle de triplet pythagoricien, mais si Pythagore a vécu 2500 ans, il y a 2500 ans, c'est-à-dire 1000 ans après que cette tablette ait été gravée, on parle quand même de triplet pythagoricien.
Oui, alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est pour ça que le petit clip vidéo dont on a entendu un extrait au début m'agace un peu. Quand on dit le théorème de Pythagore était connu des Babyloniens, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire connaître un théorème? Ça veut dire savoir qu'il est vrai et savoir le démontrer. Et il y a une grande marge entre le fait que les Babyloniens savaient qu'un rectangle de côté 3 et 4 a une diagonale de longueur 5. Mais je pense que le fait que c'est vrai et la raison pour laquelle c'est vrai n'était certainement pas accessible aux Babyloniens.
Alors, Étienne Gis, justement, si je suis Babylonien, il y a 3700 ans, je me mets devant cette tablette, à quoi elle pouvait me servir à l'époque exactement alors?
Voilà, alors c'est toute la question que débattent les historiens. On a cette tablette, on peut se poser plusieurs questions. La première, c'est comment ces gens ont été capables de trouver ces triplets? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient en faire?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a plein de théories différentes. Il y en a qui disent que c'était une tablette qui servait pour des élèves scribes. pour apprendre à calculer, pour faire du calcul. Et cet article dont on est en train de parler, là, qui est sorti il y a quelques jours, propose que cette tablette était une tablette en quelque sorte à destination des architectes ou des maçons ou de ceux qui veulent construire une maison, un palais et qui ont besoin de fabriquer des murs bien verticaux et des salles bien rectangulaires.
Et donc le fond du débat, c'est quoi ? C'est est-ce qu'ils étaient capables de produire des calculs qui aboutissent à ces triplés ou qu'est-ce qu'ils faisaient une fois qu'ils avaient ces triplés ?
Alors, il y a double débat. La question, qu'est-ce qu'ils faisaient une fois qu'ils avaient ces triplés ? Et la question qui est suggérée dans l'article dont on parle aujourd'hui, mais qui n'est étayée par aucune preuve, puisque il n'y a aucun argument, hein, mais c'est une possibilité. Et la question de savoir comment ils ont fait pour trouver ces triplés est une autre question tout à fait intéressante qui a été débattue et qui est encore débattue par les historiens des mathématiques. Comment est-ce qu'on, si je vous demande à vous, comment vous allez faire ? Je suis à peu près sûr que vous aurez du mal à trouver 119 au carré plus 120 au carré égale 169 au carré.
Je n'aurai aucune idée de comment chercher.
Voilà. Donc le débat est là.
Et qu'est-ce qu'ils pensent vraiment avoir apporté de nouveau ces deux chercheurs ?
Alors ces chercheurs, alors il faut savoir que la tablette est incomplète. On pense qu'elle contenait 15 lignes, chacune ayant, si je me souviens bien, 8 colonnes, et il y a des colonnes qui manquent. Alors les historiens ont tenté d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir dans les autres colonnes, et les chercheurs en question ont constaté en quelque sorte que les rapports entre les côtés des triangles, des rectangles qu'ils ont considérés, que ces rapports s'écrivaient de manière relativement simple dans le système sexagésimal qui était utilisé à l'époque. Donc ils ont l'impression, c'est pour ça qu'ils ont eu des phrases assez... Encore une fois, je suis très agacé, je vous le dis franchement.
Ah oh, oui, ça se sent.
Par l'extrait vidéo qu'on a entendu.
On a réussi à vous énerver, Tienjis.
Exactement, exactement. Donc, par exemple, ils disent que c'est la seule table trigonométrique complètement exacte, ce qui fait sourire un mathématicien contemporain.
Ouais.
En fait, ils ont constaté que les rectangles qui correspondent à ces triplés pythagoriciens ont la propriété, en quelque sorte, que les rapports des côtés s'expriment de manière relativement simple dans le système sexagésimal.
On se sert encore aujourd'hui, Étienne Gis, de ce type de calcul
Alors, d'abord, le système en base 60, vous l'utilisez tous les jours dans votre horloge. Hein, nous avons 60 minutes par heure. C'est pas pour rien, hein, c'est pour cette raison. Et puis, par contre, le calcul trigonométrique, il est utilisé en permanence. Encore une fois, aujourd'hui, on clique sur une calculette et on a les sinus et les cosinus et les tangentes avec toute la précision dont vous pouvez rêver. Mais bien sûr, ces calculs restent omniprésents et très importants pour l'architecte, pour tout le monde en fait. Hein. C'est pour ça qu'on apprend ça à l'école. Hein.
Alors, juste pour une précision, vous avez dit que les auteurs se targuaient d'avoir une table de trigonométrie très précise, mais est-ce qu'il est vrai que cette table est plus précise que les tables grecques qui sont arrivées 1000 ans après ?
Alors, elle est plus précise. Je crois même pas qu'ils emploient le mot précis. Ils disent que c'est une table exacte.
Donc ça, c'est juste.
Ce qui leur plaît dans cette description, c'est que les sinus et les cosinus, pour employer la terminologie d'aujourd'hui, sont des nombres décimaux ou sexagésimaux ou je ne sais quoi, qui n'ont qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors que si vous prenez votre calculette aujourd'hui et si vous demandez combien vaut sinus de 13 degrés, votre calculette va vous sortir un nombre avec une infinité de décimales, enfin va vous sortir une quinzaine de décimales, et si vous en voulez 100, vous en aurez 100, et il y en aura autant qu'on veut. Donc en un certain sens, votre calculette vous donne un résultat approximatif. Et ce qui plaît à ces auteurs, c'est que pour les angles bien particuliers qui sont choisis par les Babyloniens, il se trouve que les sinus et les cosinus sont des nombres décimaux, enfin pas décimaux mais sexagésimaux.
En tout cas, voilà comme une tablette d'argile babylonienne peut énerver un mathématicien contemporain.
Exactement.
Étienne Gis, merci quand même pour vos explications, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, donc on avait quand même envie d'en savoir plus et d'avoir un avis plus critique grâce à vous. Merci beaucoup, Étienne Gis.
Merci, au revoir.
À bientôt et merci, Axel.
À demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les bébés nés prématurés qui vont de mieux en mieux. Chaque année en France, entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurés, c'est-à-dire avant 8 mois de grossesse. Et selon l'INSERM, leur taux de survie au-delà de 2 ans a fait un bond de 6% en 20 ans, tandis que le taux de handicap moteur ou sensoriel a baissé de 7%. Selon cette même étude parue en août, le taux de survie des grands prématurés nés avant 26 semaines reste faible, avec 52% d'entre eux qui survivent, malgré les progrès des prises en charge et de l'accompagnement. Les ancêtres du groupe des baleines avaient des dents bien acérées et chassaient les poissons. Des chercheurs australiens ont analysé les dents de plusieurs ancêtres du groupe des cétacés à Fanon, groupe qui comprend aujourd'hui les fameuses baleines bleues mangeuses de plancton. Ils concluent qu'elles sont longtemps restées des prédatrices et que, contrairement à certaines théories, leurs dents n'ont pas évolué lentement pour permettre la filtration du plancton. Ce mode de nourrissage serait apparu après la perte totale de leurs dents. Et puis dans le domaine des allergies, les hommes et leurs animaux de compagnie se ressemblent beaucoup. Réactions cutanées, diarrhées, démangeaisons ou crises d'asthme, ces symptômes ne se limitent pas aux humains. Les chiens, les chats ou même les chevaux peuvent présenter des réactions similaires aux hommes en présence des mêmes allergènes. Ce constat de l'Académie européenne des allergies et de l'immunologie montre aussi que la répartition des types d'allergies chez les hommes et leurs compagnons sont très comparables. Une preuve peut-être d'une exposition partagée aux mêmes facteurs environnementaux.